BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, pourquoi vous détestez tous votre DRH? C'est la question qu'on va poser à Thomas Chardin. Il est dirigeant et fondateur de Parlons RH. Il a écrit DRH, mission ou démission, trois propositions d'action à l'heure des choix. Et puis on va parler santé mentale. Ça va mal dans les entreprises, les DRH en sont conscients, mais comment agir concrètement? On va en parler avec Faustine Duriez, c'est la fondatrice de Coco Worker. Et puis, vous télétravaillez, certes, mais vous n'êtes pas obligé de rester sur votre chaise de cuisine de manière inconfortable si vous alliez faire un petit peu de yoga comme ça au vert. On va en parler avec la fondatrice de Yogascope dans un instant. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Thomas Chardin. Bonjour, dirigeant et fondateur de Parlons RH, auteur de DRH, mission ou démission, trois propositions d'action à l'heure du choix, un livre que vous avez écrit un peu avant la crise sanitaire, si je ne me trompe.
Exactement.
Est-ce que ça a changé depuis? Vous avez envie de le réécrire, de tout changer?
En fait, il a été écrit bien avant la crise sanitaire. On l'a mis en stand-by avec l'éditeur à cause de la crise sanitaire. Il se trouve qu'on a changé 2% du contenu. Tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire a confirmé, en fait, accéléré ou révélé ce qu'on écrivait dans cet ouvrage.
Ce que vous avez écrit, c'est que le DRH est malmené, mal considéré, pas toujours à sa place. Donc ça ne s'est pas arrangé avec la crise sanitaire. Est-ce qu'il va bien psychologiquement? Est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Alors, c'est vrai que le DRH normalement s'occupe du burn-out des collaborateurs. La question peut se poser de qui va s'occuper du burn-out du DRH. En fait, la crise a quand même redoré un petit peu le blason du DRH, des professionnels RH. Ils ont été extrêmement courageux pendant cette crise-là. Ils ont été très engagés, très investis. Alors, on ne parlera pas de collaborateurs de première ligne, n'exagérons rien. Mais ils ont été sur le pont et je leur tire mon chapeau. Ils ont été très courageux, mais comme à chaque fois. En fait, le DRH est un formidable pompier qui réagit chaque fois que l'entreprise a des impacts exogènes ou endogènes à l'organisation, que ce soit juridique, technique, économique, social, organisationnel et bien sûr sanitaire. Le DRH est toujours là. Les professionnels RH sont toujours là. Donc, j'ai pas été surpris.
Et pourtant, dans les critiques qu'on fait au DRH, on leur dit ils servent à rien, ils sont inexistants, ils sont absents. C'est des mots qui ressortent des études. Ça sert à rien, ça sert juste à empêcher l'entreprise de tourner ou à dire non. Là, au moins, pendant la crise sanitaire, on a pu les voir en action. Ça les a peut-être aidés.
Oui, je pense qu'en fait, ils ont bien démontré qu'ils servaient à quelque chose. Moi, la critique que je fais n'est pas envers la société qui finalement aime haïr les DRH, qui sont un peu un bouc émissaire facile de notre modèle économique.
Mais pourquoi ? Pourquoi vous pensez que le DRH est un bouc émissaire dans l'entreprise? On le voit très bien, c'est les plans sociaux, c'est de sa faute, c'est lui qui prend en fait pour beaucoup de choses. Mais est-ce que ça ne fait pas partie de sa fonction?
Ça fait partie de sa fonction d'avoir un certain nombre de rôles qui ne sont pas forcément agréables. Les PSE sont de sa responsabilité. Mais ne limitons pas le rôle du DRH à cette partie qui est très limitée en fait. C'est lui qui forme, c'est lui qui recrute, qui développe les compétences, qui négocie avec les partenaires sociaux, qui rémunère. En fait, le rôle du DRH, il est beaucoup plus large, diverse et pluriel que ce que l'ensemble de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut voir dans les médias au sens très large du terme, que ce soit le cinéma, la télé ou dans différentes chansons. Le DRH est caricaturé. C'est soit un idiot, soit un salaud. Moi, je crois qu'il a une très très belle mission, mais charge à lui, et c'est ça mon propos dans cet ouvrage, charge à lui de s'en saisir et d'en faire œuvre de pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer quelle est sa mission, quelles sont ses contraintes, et peut-être de bien choisir sa mission. On arrive peut-être à un carrefour où le DRH ne peut pas courir 4 ou 5 lièvres à la fois, ou risque d'en attraper aucun. Il faudrait qu'il focalise sa mission sur le bon R de DRH, pas forcément celui de la ressource, qu'il faut optimiser en qualité, en quantité. C'est plutôt celui, le R de la relation, qu'on a réinvesti en fait pendant la crise.
Donc il n'arrive pas à trouver, enfin il comprend pas forcément lui-même en fait quelle est sa place. Vous écrivez, pour certains la DRH c'est le bras armé de la direction dont elle exécute les bases d'œuvre. Pour d'autres elle s'occupe à manier les chiffres, les yeux braqués sur ses indicateurs, alors qu'elle devrait se concentrer sur l'humain. Il y a pas un DRH qui passe ici qui me dit pas qu'il fait que ça de l'humain, que l'humain il adore ça. On utilise ce mot un peu pour tout et pourtant on n'y arrive pas, on sait pas ce que c'est.
Mais effectivement je pense pas qu'on choisisse ce métier-là, cette fonction-là par opportunisme, par hasard. Moi tous les DRH que je croise, effectivement, ont chevillé au corps une forme d'humanisme parfois naïf, mais c'est très ancré, c'est très présent. Mais les faits et les études convergent pour dire qu'il y a un écart grandissant, une forme de déconnexion entre le rêve du DRH et sa réalité. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, les DRH eux-mêmes, dans différentes enquêtes...
Ils n'en peuvent plus faire l'administratif.
Ils n'en peuvent plus de faire de l'administratif, ils aimeraient bien faire autre chose. Et les collaborateurs attendent qu'ils fassent autre chose, et les managers attendent qu'ils fassent autre chose. Et en fait, si on élargit un peu le scope, les parties prenantes attendent également de leur part qu'ils fassent autre chose.
Et pourquoi on ne le fait
pas? Eh bien, parce que justement, il faut que les DRH saisissent un peu de ce chantier de quelle est ma mission, et de mettre en accord leurs actes avec leur vocation, et donc de bien choisir sa mission, et de passer un peu du courage à l'audace. Alors, le courage, c'est ce dont ils font preuve régulièrement, c'est-à-dire d'être un peu averse aux risques, et en fait, c'est la mission du DRH, de réduire les risques, de les contrôler, notamment, bien sûr, les risques sociaux. Mais l'audace, c'est pas ça, c'est tout l'inverse en fait. C'est se tirer parti, profit d'un risque en accord avec sa mission. C'est d'avoir de prendre le risque comme une vertu.
Le risque de faire quoi? De réorganiser l'entreprise, de laisser tomber certaines tâches administratives, de dire ça en fait c'est pas mon job?
De laisser tomber certaines tâches administratives parce que il y a plus d'énergie, plus de temps, plus de budget pour d'autres tâches sur lesquelles on les attend, la transformation digitale des organisations, ou la transformation tout court de l'organisation, l'expérience collaborateur, la marque employeur, la qualité de vie au travail. Tous ces sujets-là sont des nouveaux sujets sur lesquels il y a en fait peu d'investissement de la fonction RH, peu de l'investissement des DRH en budget, en temps et en moyens. Et si on veut pouvoir adresser ces sujets-là, comme je l'évoquais, on ne peut pas courir adresser tous les sujets, il faut donc abandonner certaines missions. Des missions plus régaliennes, plus techniques, plus juridico-comptables, qui sont très importantes pour qu'elles soient bien faites, mais elles ne contribuent pas à la performance de l'organisation. Donc les DRH doivent effectivement, à mon sens, c'est ce que le propos de l'ouvrage.
Et pourtant, j'entends tout à fait ce que vous dites sur l'administratif, sur le financier, etc. Et pourtant, aujourd'hui, les DRH veulent de plus en plus aller dans la stratégie de l'entreprise. Ils veulent de plus en plus être une partie prenante en disant, si vous n'avez pas l'humain qui suit, vous n'y arriverez pas, demandez-nous notre avis. Pourtant, vous dites, il faut faire des choix quand même. On peut pas être partout.
Mais je pense qu'il faut pas demander. Il faut pas qu'un DRH dise demandez-vous notre avis. Il faut le prendre. Dans Encodir, la plupart du temps, quand j'ai la chance de pouvoir y assister, le DRH est assis sur un strapontin et tous ses confrères, directeur marketing, directeur commercial, directeur des opérations.
Il parle en dernier aussi.
Il parle en dernier et tous les autres parlent de ces sujets. Il devrait parler en premier. Et parler des autres sujets.
Mais
des
ça fait 10 ans qu'on dit un jour à la tribune, dans les réunions des actionnaires, le DRH parlera avant le DAF, puis en fait, il ne se passe rien.
Effectivement, ça fait même presque. Ça fait plus de 10 ans.
Ça fait 10 ans, mais on dit ça comme un espoir, on attend qu'il se passe ça, mais il ne se passe rien.
Il y a un livre qui est sorti il y a 35 ans qui était Vers le management stratégique des ressources humaines. Moi, je pense qu'on y est, ça y est. Je ne dirais pas grâce à la crise, malheureusement, mais grâce à des tendances de fond qui existaient bien avant. Le DRH se doit de se saisir de cette opportunité d'être enfin. D'avoir l'audace d'être lui. C'est-à-dire qu'il faut oser être soi, essayer de défendre sa mission, la promouvoir et prendre le pouvoir. L'audace, c'est bien ça, c'est de prendre le pouvoir en accord avec sa mission, évidemment. Si on estime que sa mission, c'est de faire des bulletins de paie et des contrats de travail, c'est très noble en soi. J'ai été gestionnaire paie, donc je ne critiquerai pas cette activité.
Mais on peut prendre une intelligence artificielle. Ou une boîte pour le faire à notre place.
Exactement. Ou alors, il y a des fonctions dans l'entreprise dont c'est le métier. Faire des déclarations administratives et fiscales, il y a une DAF dans des grandes organisations, c'est le métier, il y a une direction juridique. Pourquoi faire ce que d'autres font mieux que nous? Et surtout, c'est des missions sur lesquelles on n'attend pas forcément le DRH aujourd'hui.
Vous dites trois défis pour la fonction RH, guerre de l'image, guerre des talents, guerre de l'attention. Vous mettez quoi derrière ces trois termes?
Guerre de l'image, c'est de redorer son blason, non pas pour être le plus aimé du monde, c'est pas ça l'objectif, les DRH n'ont jamais été aimés être dans la lumière, mais aujourd'hui ça nuit à leur mission. Donc le fait d'être pas connu, pas compris. Vous avez cité des termes inexistants, éloignés, c'est des absences, c'est des qualificatifs, souvent dans les différentes études qui remontent pour juste caractériser la fonction RH. C'est terrible, quand même. Donc le premier défi, c'est effectivement cette guerre de l'image. Je parlerai de communication. On est dans une société de la communication. C'est pas à vous que je vais dire.
Mais donc ça veut dire que le DRH ne peut pas avoir pas de charisme. Il faut des personnalités. Il faut des gens qui incarnent.
Oh, j'irai pas jusque là. Il faut des gens qui incarnent. Oui, ça doit être le leader de la transformation. C'est le DRH parce que la transformation qu'on vit, elle est pas technologique, elle est pas marketing ou financière. Elle concerne la dimension humaine des organisations. La crise a bien révélé des problématiques d'un autre modèle managérial, de notre modèle de collaboration, du lien social. Tout ça, c'est la dimension humaine des organisations. C'est au DRH de le porter. Il doit, à minima, faire œuvre de pédagogie sur ses contraintes, sa mission, j'y reviens toujours, ses objectifs, ses moyens. Qu'on lui donne pas toutes les tâches administratives, juridiques, comptables.
Ça peut être le bout de la chaîne, en fait.
Il est toujours au bout de la chaîne, il doit être en premier.
Guerre des talents, bon ça on en parle toute la journée, je vois ce que c'est. Guerre de l'attention, qu'est-ce que vous mettez derrière ça?
Je reviens juste deux secondes sur la guerre des talents, si vous le permettez. Pourquoi? Parce que la guerre des talents, c'est pas nouveau en fait. En 2016, 32% des entreprises avaient des difficultés de recruter.
Ça s'est pas arrangé.
Aujourd'hui, on a 52%. On augmente d'année en année. C'est pas lié à la crise. Certains secteurs découvrent des problématiques d'attractivité. En parallèle de ça, on a aussi une problématique de fidélisation. Le turnover a doublé en 20 ans en France. Et l'engagement, notamment au travers de l'absentéisme, augmente d'année en année. Pourquoi on serait plus malade en 2019 qu'en 2018, en 2018 qu'en 2017, etc. Et ça, c'est bien au DRH d'adresser ces enjeux-là. Ce sont des enjeux tendanciels, pas conjoncturels. Et on ne gagnera pas cette guerre des talents-là avec les armes du passé.
Il nous reste 30 secondes pour la guerre de l'attention.
La guerre de l'attention, en fait, elle a deux côtés. Il y a le côté infobésité, tout le monde a un temps de cerveau disponible limité. Et donc, il faut que les DRH se saisissent de ce constat-là. Elle ne sera jamais une régie publicitaire et c'est tant mieux. Mais il faut utiliser un certain nombre de techniques modernes pour être intéressant pour les candidats et les collaborateurs et pas intéressés par leur force de travail ou leur l'acte de candidature. Ça, c'est la face un peu obscure de la guerre de l'attention. La face plus noble, c'est le fait de prendre soin à l'autre. Et ça, on l'a bien vu pendant la crise. Et certains DRH ont retrouvé ce sens, ce sel originel de la fonction, qui est ce que Cynthia Fleury appelle la société du care. Le fait de considérer, en fait, les interactions, la relation, comme étant le levier de compétitivité de l'entreprise. C'est au DRH de l'investir, retisser le lien social, tout simplement. On voit que là, qu'on retourne aux sources. Et c'est là-dessus que le DRH doit avoir l'audace de consacrer du temps.
Merci beaucoup Thomas Chardin, merci dirigeant et fondateur de Parlons RH. On va parler de santé mentale, ça aussi c'est un sujet très important dans les entreprises.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et voici un nouveau défi pour les DRH et tous les salariés des ressources humaines, la santé mentale. On était avec Faustine Duriez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice de Coco Worker qui aide les dirigeants à prévenir les problèmes relationnels au travail. On va parler ensemble de santé mentale. Lundi ont été lancées les assises de la psychiatrie. 30% des moins de 24 ans ont déjà pensé au suicide. Dans les entreprises, ça va pas beaucoup mieux. Empreinte Humaine a sorti une étude cette semaine. 2 millions de salariés sont en burn-out sévère à l'aube du retour au bureau. Ça va pas très fort.
Non, ça va pas.
Non, ça va pas du tout.
On a un vrai sujet, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il y a un vrai sujet. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on l'a vu, il y a une vraie tendance en ce moment de fond, qui est de prendre en compte, de lancer en fait des applications de santé mentale, qui en soi restent une bonne initiative. Mais ce qui me fait toujours peur avec ce type d'initiative, c'est de confondre les symptômes avec le problème de fond. Qu'est-ce qui fait qu'on est en burn-out? Qu'est-ce qui fait qu'on est en situation de stress? Ce sont des mauvaises relations au travail, et notamment avec notre manager. Il y a une étude qui indique qu'on a, que pour 75% des salariés, le facteur le plus stressant, c'est de mauvaises relations avec son manager direct. Donc en fait,
c'est le quotidien, quoi.
Ah oui, c'est le quotidien en fait. C'est le fait de, d'ailleurs, les relations, c'est ce qu'on va rapprocher le plus de la notion de bonheur et de bien-être. Hein. On va dire qu'on a envie de rester dans une entreprise pour ses collègues parce qu'on se sent porté par un manager, parce qu'on l'admire, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'avec ces situations alarmantes, au-delà de considérer de proposer des solutions qui concernent l'intra-personnel, donc c'est-à-dire le salarié en lui-même, en lui disant hop, vas-y, gère-toi toi-même ta situation de stress, etc. Il faudrait peut-être reconsidérer notre culture managériale.
Et parce que moi, je vois très bien, vous le voyez aussi, ce qui se passe, c'est que en gros, bon, on a un problème de santé mentale. Les entreprises, les DRH en ont conscience. On a eu la semaine dernière la DRH de Kering qui nous a dit que la santé mentale, c'était son défi pour les 5 à 10 prochaines années. Mais leur réponse, par exemple, en mettant en place des lignes rouges ou en prenant des applications de santé mentale, pour vous, elle est pas c'est pas la bonne.
C'est une situation d'urgence, en fait. On arrive à la fin. Moi, je propose des choses qui sont de la prévention, en fait. Ce qui est le problème, on a un peu parlé, c'est qu'aujourd'hui, le mauvais management, c'est la norme. On a un tiers des salariés, qui s'estiment insatisfaits de son manager, 46% qui considèrent que la principale motivation de son manager, c'est ses intérêts personnels. Je pense qu'on peut tous avoir des discussions le week-end là-dessus pour aussi le considérer autour de nous. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on
s'habitue? Les chefs sont nuls, ils savent pas manager et c'est normal.
Alors, Je voudrais pas dire que c'est à ce point-là des chefs. Moi, mon vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié la dimension humaine du travail. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette dimension opérationnelle qui fait appel à notre intelligence cognitive, et on a une dimension relationnelle, puisqu'on le partage fait partie du travail et la collaboration fait partie de la performance. Or, on ne prend pas le temps des relations. Les relations sont encore vues comme une perte de temps. On fait team building sur des temps perso généralement, ou alors on le fait ponctuellement. Pourtant, les relations sont extrêmement fragiles. Donc, il y a des confinements sont isolés, certes, mais pas que, en fait. Il n'y a pas que des crises. Une nouvelle personne qui arrive dans une équipe, un nouveau manager, etc. Tout ça est à chaque fois chamboulé, et on a besoin, en fait, d'entraîner les personnes à exprimer des attentions positives à l'autre. C'est un peu une crise de l'attention. Et c'est pas... Moi, ce qui me dérange, c'est de se dire, bon, bah, maintenant, on vous donne une solution d'après, on va dire, pour vous soigner. Mais allons voir ce qui ne va pas au démarrage et qui impacte d'ailleurs énormément la performance de l'entreprise. Hein. Parce que ce qui fera la différence, c'est d'avoir des personnes qui sont passionnées, qui ont envie de s'investir pour leur organisation et qui vont innover.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on considère la souffrance au travail comme un problème individuel, qu'il faut traiter comme un cas précis et qu'on ne remet jamais en cause l'entreprise et le collectif?
Bah, je trouve que c'est un peu le sentiment que ça donne. En fait, on a le sentiment qu'on délègue souvent les problématiques relationnelles ou de bien-être au travail. On avait vu ça un peu avec les CHO, donc les Chief Happiness Officer, qui en soi sont une bonne idée.
Plus personne n'en parle. Hein. Voilà, personne n'est Chief Happiness Officer.
On verra pour la santé mentale, hein, mais on espère que ça va diminuer.
Il va peut-être y avoir des responsables santé mentale, c'est voilà, tout à fait possible.
Mais d'ailleurs, il en parle dans son article, oui. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que on a tendance à toujours déléguer un peu ça vers le salarié ou vers une personne tierce, etc. Alors qu'en réalité, la personne qui devrait s'occuper de ça, c'est le manager. C'est le manager qui est en charge de vivre ensemble dans son entreprise. Alors, ce que je ne veux pas dire, c'est que tous les managers sont nazes, etc. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'on ne donne pas le temps au manager de faire son travail relationnel. Donc, si on arrêtait de lui demander tout le temps de faire des reporting sur des choses opérationnelles de son organisation, qu'on lui laissait un peu plus de temps à justement travailler son rôle de manager de la personne et du manager d'équipe, déjà, on pourrait voir des conséquences...
Mais tout le monde se plaint des reporting, des process, etc. On vient d'en parler avec Thomas Chardin. C'est exactement le même problème pour les DRH qui disent « je ne fais que de l'administratif, je n'arrive pas à faire de l'humain », mais ça fait aussi partie du travail. On a aussi besoin de savoir où on en est, de faire des process. Et...
Bah, cette illusion de contrôle, certes, elle rassure, hein, mais comme je vous disais, opérationnel et relationnel. On n'a pas les mêmes KPI, en fait. Hein. On ne doit pas regarder les mêmes choses. On a tellement tendance, en fait, à calquer tout ce qu'on fait comme outil de suivi dans la vie opérationnelle sur la vie relationnelle en se disant « c'est bon, ça va être la même chose ». Comme la santé mentale, ça va nous donner quelques datas et donc on se sentira un peu mieux. On a l'impression qu'on pilote la chose. Le succès des baromètres d'engagement, c'est nécessaire, mais c'est pas parce que j'ai fait une enquête d'engagement que j'agis sur le bien-être des salariés. Je vais remonter des problèmes. Après, il faut proposer des solutions. Donc, le problème, c'est toujours de penser que la performance, elle va être la même, aussi bien d'un point de vue opérationnel que relationnel. Pour le relationnel, en fait, ce qu'il faut, c'est du temps, c'est de l'attention. C'est de dire que, on l'avait vu ensemble, le relationnel est professionnel aujourd'hui. Et prendre du temps pour entretenir et préserver ces relations, c'est aussi important que prendre du temps pour envoyer des reportings.
Et quand vous dites c'est une crise de l'attention, c'est très intéressant, mais comment on fait pour donner plus d'attention? Ma question, elle a l'air un peu bête comme ça, mais c'est demander ça va tous les jours, c'est quoi concrètement?
C'est ce qu'on essaie de faire avec CocoWorker, c'est créer des nouveaux rituels managériaux. Et c'est d'autant plus important qu'on est en travail hybride, enfin, on va vers ça de plus en plus, on va se croiser, on va pas tous se voir, donc on a besoin de compléter les outils sur la partie, la dimension relationnelle de notre travail. Et notre solution, elle vise à ça en fait, elle vise à se dire je vais mettre du temps dans mon agenda, on demande vraiment de bloquer ce...
Là, relationnel, de telle heure à telle heure.
En tout cas, je vais envoyer au moins une parole valorisante à chaque membre de mon équipe tous les mois.
Ouais, mais ça c'est un peu cadré, quoi. Enfin,
c'est cadré, mais parce que c'est nécessaire, parce qu'on oublie de le faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin de surinvestir cette dimension-là. Alors,
Parce qu'on en reçoit tous des mails de remerciement quasiment automatiques. Vous faites un truc, vous avez votre chef qui dit bravo, merci. On a l'impression qu'effectivement, il s'est mis un rappel pour dire bravo et merci. Mais ça manque de vrais sentiments.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on demande de prendre le temps pour faire des compliments, des remerciements qui soient personnalisés, qui soient argumentés et qui fassent que vous vous sentez considéré. Parce que je vais vous dire exactement ce que j'ai apprécié à ce moment-là de l'interview, le moment où vous avez noté ça, etc., qui fait que... Bah, je donne aussi des messages à tout le monde de ce qu'on attend de chacun. Et cette transparence-là, elle est bénéfique de comprendre un peu comment je fais pour être reconnue à mon tour. Et ensuite, parce que du coup...
Et ça fait partie du boulot. C'est pas ça, quand est-ce qu'on bosse?
On le voit tous. Hein, on a envie de rejoindre des personnes avec qui on s'entend bien. En fait, on pourrait se dire à la base, imaginons vous m'aimez pas, je sais pas, vous avez l'impression que j'ai été un peu prétentieuse à un moment donné. Si moi je prends le temps de vous envoyer un message en me disant courage, parce que je sais que t'as une présentation au codir à 16h et que ça va pas être évident et je suis là pour... Enfin, en tout cas, je t'encourage. Vous pouvez pas me voir de la même façon. Donc en fait, on force certainement, mais c'est nécessaire aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on entraîne des compétences relationnelles. Et comme je vous disais, le problème de toujours penser, on va mettre appliquer l'opérationnel.
Et vous cassez les non-dits, quoi.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on se dit, par exemple, il faut développer les soft skills, on va se dire, on va faire une formation de 2 jours. Laure, je vais vous emmener sur du leadership pour développer votre empathie. Ben, en 2 jours, vous n'allez jamais réussir. Enfin, il n'y aura pas de switch.
Non,
vous allez peut-être développer vos connaissances, mais on a besoin de pratiquer. Le fait d'écrire cette parole-là, parce que vous n'allez pas avoir d'idée sur le coup, je développe votre empathie, parce que vous allez devoir réfléchir à des occasions de me remercier.
Eh bien, peut-être qu'un stage ensemble nous ferait du bien. Faustine, c'est le sujet qu'on va aborder dans un instant. Merci beaucoup d'être venue dans Happy Boulot Lomag. Faustine Duriez, fondatrice de Coco Worker. On va parler télétravail et yoga.
BFM Business, Happy Boulot Lomag. Business Case.
Et si vous preniez un petit peu l'air en même temps que vous bossez, ça vous ferait du bien. On est avec Léa Koutaille, bonjour, fondatrice des Terres du Yogascope. Vous proposez des stages pour les télétravailleurs qui en ont marre de bosser sur leur chaise de cuisine tout seul chez eux, qui prennent un petit peu l'air, des sortes de stages. On peut y aller 2 nuits à 28 nuits en pleine nature et on fait du yoga.
Exactement. À l'origine, ce projet, il est né de ma première, enfin de l'entreprise dans laquelle que j'ai fondée il y a 4 ans, qui est donc le Yogascope, qui est une entreprise tournée autour des retraites de yoga. Et en fait, la crise qu'on vient de passer, les 2 ans qu'on vient de vivre, ont un peu transformé notre façon de vivre autant dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère professionnelle. Et j'ai eu envie de prendre la mesure de ce qui se passait avec cette crise et avec le Covid et avec les modes de travail qui ont été complètement chamboulés sur ces 2 dernières années pour mettre à profit notre expérience dans les retraites de yoga et notre expertise dans le bien-être et vraiment mettre cette expertise au profit des travailleurs et peut-être accompagner un nouveau mode de travail, un nouveau mode de fonctionnement.
Parce que c'est ça, ce que vous vous dites, c'est que dans une journée, on peut effectivement travailler face à son ordinateur, faire un peu de yoga, un peu de méditation, se promener, retravailler.
Exactement.
Dans un cadre sympa et rencontrer des gens qui sont un peu différents.
Exactement.
Parce qu'il y a une partie réseautage dans vos stages.
Totalement. Je pense que l'humain, on en a été coupé complètement pendant ces 2 dernières années. On a tous échangé beaucoup à travers des écrans, mais je pense qu'aujourd'hui, ça devient nécessaire, fondamental de se retrouver, de repasser des moments ensemble, de couper avec l'isolement. Et en fait, dans les lieux qu'on investit réellement pendant ces temps de co-living, l'idée, c'est de créer vraiment des bases pour que les journées des travailleurs, des télétravailleurs, soient encadrées par des moments de bien-être. Donc, il y a des cours de méditation à 7h du matin, suivi de cours de yoga, la même chose le soir à partir de 19h. Mais vraiment, le reste du temps, tout est pensé pour que les gens qui viennent sur place se déchargent totalement de leurs responsabilités, je dirais, ménagères. Il y a un chef sur place qui s'occupe de leur faire à manger midi et soir, matin, midi et soir. Il y a des professeurs de yoga qui sont là pour les encadrer le matin et le soir également pour les cours. Mais par contre, le reste du temps, ils sont vraiment libres de travailler, mais de faire complètement autre chose s'ils n'en ont pas envie. On a eu le cas de jeunes personnes qui nous contactaient pour venir en retraite d'écriture. Donc c'est pas forcément adressé uniquement aux gens qui font du télétravail, mais aussi des gens qui ont envie de prendre un pas de côté et peut-être de se servir de ce temps qui est un peu à part finalement, qui n'est pas des vacances, mais qui n'est pas non plus un moment de travail intense pour peut-être réfléchir et être créatif sur d'autres sujets.
Au début, quand j'ai vu votre projet, je me suis dit, mais ça, c'est pas du tout pour les mères de famille, c'est dégueulasse, c'est pour tous les célibataires qui vont aller passer 28 jours à télétravailler au vert. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, en plein milieu de la semaine, on peut aller faire 4 jours de pause de sa famille et de travailler en même temps sans poser de RTT. Je me suis dit, brillant, en fait.
Ben, merci. Oui, effectivement, l'idée, c'est pas du tout de sortir complètement du cadre de sa vie. L'idée, c'est vraiment de s'offrir un moment de réflexion, peut-être d'anticipation de quelque chose pour la suite. Et vraiment, le fait est qu'on peut venir de 2 nuits à 28 nuits. Donc, c'est totalement ouvert. Il est tout à fait possible de venir sur un week-end. Il y a même sur certains lieux, je pense surtout à celui avec lequel on va travailler au mois de mars, il y a la possibilité de venir avec son enfant si on en a envie. Alors, c'est des chambres qui sont un petit peu à part, mais c'est tout à fait possible, ouais, bien sûr. J'ai eu la demande d'ailleurs de parents qui voulaient venir avec leur enfant sur le co-living qui va avoir lieu dans les Alpes. C'est tout à fait possible.
Comment vous choisissez vos lieux? Donc, il faut qu'il y ait Wi-Fi, j'imagine.
Ah, ça, c'est
essentiel.
Essentiel. Aujourd'hui, on a cette expérience-là avec le Yogascope, qui est donc l'agence de voyage que je dirige, qui est de trouver vraiment des lieux au beau milieu de la nature. Luxueux dans le sens où ils sont pleins de charme, complètement. Enfin, on sort vraiment de cette bulle de. Enfin, l'idée est vraiment d'avoir des lieux précieux, mais pas qu'ils soient dans le luxe clinquant. C'est vraiment pas ça. Le luxe, en fait, dans nos lieux, c'est de se retrouver au beau milieu de la nature.
C'est de rien faire aussi, quoi.
c'est vraiment d'être au beau milieu de la nature. L'idée étant quand même que ce sont des très belles maisons. Il y a un sauna dans la maison, dans les Alpes. Enfin, on cherche vraiment des lieux précieux.
Eh bien, écoutez, bonne continuation, Léa Koutaï, fondatrice des Terres du Yogascope. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.